C'est une joie eh bien, pour moi de vous accueillir au sein de cette église. Et le désir de Dieu et de l'Évangile, c'est que nous puissions vivre cette vie de transformation, que nous puissions ouvrir nos cœurs, que nous puissions grandir spirituellement, que nous soyons heureux. Parce que son but, eh bien, c'est de nous apporter ce bonheur dans la vie de tous les jours. C'est encore d'avoir eh bien, ces yeux d'enfant, ces yeux qui s'émerveillent sur les choses simples de la vie. Nous pouvons proclamer « À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vais continuer aujourd'hui à vous parler de veiller à ne pas perdre votre cœur. Jésus dit à plusieurs reprises, prends courage. Et à chaque fois eh bien, que les personnes prennent courage, il s'opère des miracles. David dit des choses intéressantes sur les ennemis. Voici ce qu'il dit dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 52, verset 46. « Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. » David a vu l'essentiel. Il savait que lorsque le peuple perdait courage, il irait tout droit dans les mains de l'ennemi. C'est pourquoi, alors David n'était qu'un jeune homme, et il disait dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, verset 32, que personne ne se décourage. Il y a tellement de sujets de découragement, tellement de contrariétés que nous subissons dans notre vie. Même lorsque nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, combien eh bien, nous vivons à des moments des contrariétés qui nous affectent et qui nous découragent et qui nous amènent à rentrer, à mettre notre vie beaucoup plus dans les mains de l'ennemi que de regarder à la puissance de Dieu. Quand nous sommes face à ceux qui s'opposent au travail de Dieu, quand nous sommes face à ceux qui s'opposent au royaume de Dieu, on voit bien, eh bien combien il y a d'attaques, combien il y a de pressions, combien il y a de déchaînements qui nous empêchent d'atteindre des résultats. Les Écritures disent « Je suis en défaillance et je tremble ». Voilà, lorsque tu vis le découragement dans ta vie, eh bien, tu vis des temps de défaillance. Tu as le sentiment que rien ne va. Et puis, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et bien souvent, tu regardes à tous les dangers, à tout ce qui pourrait arriver, et tu commences à trembler, à regarder, à te sentir mal dans ta vie. Et cette image, eh bien souvent, me reste en tête. Un peuple qui se permet d'être terrifié. Et souvent, nous sommes ce peuple terrifié par l'avenir, terrifié par nos angoisses, terrifié par les contrariétés que nous subissons dans notre vie, par des personnes peut-être même qui nous sont proches. C'est bien souvent cela qui nous amène à perdre notre cœur, à perdre notre foi, à perdre notre enthousiasme, à perdre eh bien, notre joie de vivre. Vous savez, ce cœur qui est mi-figue, mi-raisin, ce cœur qui est à moitié, ce cœur eh bien, qui n'est pas tout entier à Dieu, qui n'a pas ce même zèle, ce même enthousiasme de regarder vers le Seigneur. Combien nous avons souvent le sentiment d'être sabotés dans notre travail avec Dieu, dans notre relation avec l'autre. Combien, lorsque nous mettons du zèle à l'ouvrage, combien de fois eh bien, nous ressentons une sorte de sanction ou des personnes qui n'ont rien compris à ce que vous avez envie de faire et qui ne regardent les choses qu'avec des yeux eh bien, de courroux, de colère, et qui vous enlèvent eh bien, cette joie, ce punch, et qui vous amène à vivre des contrariétés et qui vous amène à vivre des découragements. Je crois que tous, chacun d'entre nous, nous avons pu ressentir eh bien, ces contrariétés dans notre vie. Et combien de fois, eh bien, lorsque nous sommes découragés, nous ne rendons pas gloire à Dieu, mais bien au contraire, nous allons eh bien, tout droit dans les mains de l'ennemi parce que c'est lui eh bien, qui va s'amuser avec nous, avec finalement eh bien, toute cette angoisse et qui va nous tourner là où il veut nous amener. Hein, vous savez, l'ennemi est un grand manipulateur. Il essaye eh bien, de nous conduire là où il souhaite nous conduire. Et si vous voulez aller dans la main du diable, eh bien, le découragement, finalement, c'est la meilleure manière d'y arriver. Pensez à éloigner de vous ce qui vous amène à être découragé. Je crois que c'est important que nous puissions analyser, regarder les choses. Et à chaque fois eh bien, qu'il y a des découragements, eh bien, regardez à ce qui vous décourage. Regardez à toutes ces choses qui vous amènent à vous éloigner de votre but initial. Et je crois qu'il est bon eh bien, de rejeter cela. Il est bon de demeurer debout et de rejeter eh bien, toutes ces sources, toutes ces contrariétés, toutes ces attaques de l'ennemi pour demeurer eh bien, dans le plan de Dieu, pour que votre cœur eh bien, soit toujours aussi fervent et que vous puissiez travailler dans les choses de Dieu avec un zèle, avec le même zèle, avec une telle chaleur, avec une telle bonne humeur. Parce que le travail de Dieu est un travail qui met en nous la joie, la satisfaction. C'est notre joie que nous manifestons et c'est cette bonne humeur d'être des enfants de Dieu et de pouvoir vivre cette aventure d'enfants de Dieu et de peuple de Dieu. Je dis toujours que nous avons un privilège énorme, celui eh bien, de vivre une aventure. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est vivre quelque chose que le monde ne connaît pas, mais c'est une aventure parce que Dieu n'est pas le Dieu de tout repos. Il nous amène à vivre non pas au travers des habitudes, il nous amène à vivre des combats et ces combats eh bien, nous amènent à vivre des victoires. Il nous amène à vivre des challenges et ces challenges nous amènent encore à vivre des victoires. C'est là une vie d'aventure et lorsque je regarde eh bien, à Paul, lorsque je regarde à Moïse, à tous ces grands hommes qui sont dans la parole de Dieu, je ne cesse de voir eh bien, dans leur vie une vie excitante, une vie palpitante, une vie extraordinaire. Et c'est cette vie-là que Dieu eh bien, nous donne de vivre lorsque nous gardons notre cœur, lorsque nous avons toujours le même zèle, la même ferveur pour le servir et lorsque nous ne nous laissons pas décourager. Parce que bien souvent, le découragement eh bien, affecte nos pensées, affecte notre cœur, affecte notre relation même avec Dieu. Le découragement nous éloigne eh bien, de la parole de Dieu, de la puissance de la foi, pour nous amener finalement à regarder aux situations et à en devenir prisonniers. Parce que finalement, ces situations eh bien, nous emprisonnent, nous attachent et nous empêchent de vivre la profondeur eh bien, des enfants de Dieu, c'est-à-dire de vivre cette gloire. Parce que la gloire de Dieu, souvent, on la recherche. Mais la gloire de Dieu, lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, elle est en nous. Et cette gloire, eh bien, nous devons la révéler. Nous devons la sortir afin de la vivre et de la mettre en pratique chaque jour. La gloire de Dieu n'est pas triste, la gloire de Dieu n'est pas dans l'affliction, la gloire de Dieu se manifeste au travers de notre confiance que nous avons dans le Seigneur, au travers eh bien, de cette dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et cela, c'est quelque chose de formidable. La Bible nous apprend que Jésus peut apporter non ce qui rétrécit, hein, ce qui nous amène à rester eh bien, figés sur nous-mêmes. Bien souvent, les causes de découragement, bien souvent les contrariétés, eh bien, nous amènent à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Mais la parole de Dieu, l'Évangile, elle nous amène au contraire à ouvrir notre cœur, à nous encourager, à nous fortifier. Hein, fortifie-toi, prends courage. Tes paroles qui sont là pour nous restaurer, ces paroles qui sont là pour, je dirais, nous rebooster quelque part. Jésus a toujours une bonne parole. Vous savez, la bonne parole, cette parole eh bien, qui encourage, cette parole qui donne de l'énergie, cette parole qui nous amène à vivre autre chose. On va regarder une histoire dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe au chapitre 7, et il est question de la maison de David et du roi de Juda, Achas. C'était un roi qui était, je dirais, un petit peu stupide quelque part. Il se regardait et il regardait au travers de ses yeux et puis il vivait dans ses pensées. Il arriva que deux ennemis aient conspiré contre lui. C'est combien de fois vous vivez eh bien, des situations où il y a des conspirations. Vous croyez faire quelque chose de bien et vous savez ce que vous faites, ça ne plaît pas à tout le monde. Et bien souvent, il y a même des gens qui conspirent, qui se regroupent pour eh bien, vous critiquer, pour vous calomnier, pour vous diffamer. Hein, on vit dans une société où de plus en plus, il y a la calomnie, il y a eh bien, le regard sur les personnes. On attaque des hommes, on les attaque dans leur vie personnelle. Vous voyez aux actualités eh bien, la vie du président de la République et d'autres personnes. Je dirais que nous avons toujours les regards et la société est rivée eh bien, vers le scandale. Elle est focalisée vers les journaux à grand tirage, mais il en est de même dans la vie de l'Église. On est souvent confronté eh bien, à des situations, à des conspirations, parce qu'on vous regarde eh bien, en disant « mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, nos grands-parents n'agissaient pas de cette manière, l'Église de Jésus-Christ, eh bien, elle ne doit pas aller dans ce sens ». Et finalement, on s'aperçoit souvent eh bien, que les combats que nous menons sont avec des personnes que nous aimons, qui sont proches de nous et avec lesquels, eh bien, des fois, nous avons le sentiment qu'il y a des murs qui nous opposent et qui nous séparent. Et il y a là tous ces tiraillements. Et là, eh bien, il y avait cette conspiration de ces rois de Syrie et d'Éphraïm qui ont fait alliance. Et en d'autres mots, ils ont œuvré ensemble contre eh bien, la puissance suprême de Jérusalem, contre Dieu lui-même. Vous savez, souvent, on complote pour aller contre. Et là, eh bien, ils ont été à l'encontre même de Dieu en s'attaquant au roi Achas. Ils voulaient prendre, eh bien, envahir Jérusalem. Ils voulaient dominer cette ville là où il y avait la présence de Dieu. Alors, on voit, eh bien, à la fin du verset premier, il est dit qu'ils sont venus assiéger Jérusalem, mais ils n'ont pas réussi. Verset 2. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Achas et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, son prophète, va à la rencontre d'Achas, toi et Shéar-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, ne perds pas ton cœur devant ces deux bouts de tison fumant. Hein? Il y a plus de fumée que de feu, finalement. Hein? La Bible eh bien, nous dépeint une image d'un roi Achab qui a le cœur agité, son cœur est secoué. Lorsque vous faites face à des situations, à des attaques, à des contrariétés, eh bien, bien souvent, votre cœur est agité. Et on voit même que ce cœur qui est agité, eh bien, il en est de même pour le peuple qui l'entoure. Le cœur du peuple était agité, tourmenté, tracassé. Combien de fois, lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles dans notre vie, eh bien, nous sommes tracassés. tracassé, préoccupé, et ça touche, et ça nous touche à nous, et ça touche notre entourage. Et nous sommes là, eh bien, en train de penser que nous vivons un cauchemar. Hein, et bien souvent, dans ces situations, nous ne voyons pas de porte de sortie. Nous sommes là, prisonniers et agités. Hein, ces esprits qui sont agités. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu, eh bien, d'être agité. Bien au contraire, la volonté de Dieu, elle nous est révélée en nous disant « Sois tranquille, sois calme. » Ou « Calme-toi, tranquillise-toi. » Vous savez, quand on est dans une situation agitée, on aurait envie de tout envoyer en l'air. Hein. On aurait envie de tout laisser tomber. On aurait envie eh bien, de tout balancer derrière les épaules. Hein. Dans les situations agitées, souvent, on peut faire n'importe quoi. Et on aurait tendance à vouloir se jeter dans la gueule du loup. On aurait tendance à rentrer et aller et à se battre contre ceux peut-être qui vous ont injurié, contre ceux qui vous ont diffamé. Mais la parole de Dieu nous dit « Sois tranquille, hein, sois tranquille. C'est quelque chose, ne crains rien, ne t'inquiète pas, ne vois pas toujours le pire. » Je connais des chrétiens qui ont tendance toujours eh bien, à voir le pire. Hein, ils ont l'impression que le monde va s'écrouler, ils ont l'impression que c'est plus la peine de venir à l'église, ils ont l'impression qu'à un moment donné, ça ne va pas et ils sont en situation de révolte. La parole a dit « ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, hein. C'est quelque chose de formidable. Hein. Vous voyez que le cœur, il peut tirer des sonnettes d'alarme, il peut s'affoler, il peut s'emballer. Hein. On le voit lors eh bien, de crises cardiaques, hein, où le cœur s'emballe et il va battre eh bien, beaucoup plus vite et risque d'y avoir des infarctus. Vous voyez, Dieu dit, eh bien, sois tranquille. Regarde les choses avec le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est quelque chose de formidable. Et lorsque, si tu regardes à un cœur agité, tu peux eh bien, faire des choses que tu vas regretter par la suite. Les Écritures disent que s'il laisse son cœur agité, il laisse aussi le cœur du peuple agité. Hein, quelqu'un qui est agité eh bien, va le faire ressentir aux autres. Et finalement, ça va amener eh bien, un peuple qui va s'effrayer, un peuple qui va se contrarier et qui va être secoué eh bien, comme les arbres de la forêt. Vous voyez, ils sont secoués par le vent. Eh bien, c'est là l'image qui nous est dépeinte. Et la parole de Dieu dit « garde le calme hein, ». Sois vigilant. Ça ne veut pas dire parce que tu gardes le calme que tu dois ne pas regarder au problème. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas... Dieu ne te dit pas d'être insouciant ou d'être inconscient. Il te dit d'être calme, de ramener le calme dans ces situations, de ne pas t'affoler, de ne pas t'agiter, mais d'être au calme. Et puis d'être vigilant, de regarder, de confronter les situations dans le calme. Tu verras que les choses vont beaucoup changer. Tu verras que bien souvent dans les tempêtes, eh bien lorsqu'il y a le calme, les choses vont beaucoup mieux. Tu verras que tu ne verras pas les choses avec les mêmes yeux. Tu verras que ton cœur eh bien, ne sera pas en train de trembler, mais bien au contraire, il ne vivra pas eh bien, ces instants de panique. Il sera toujours dans le même cap, celui d'aimer Dieu, celui d'être tourné vers le Seigneur. Le Seigneur dit au verset 7, « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Vous voyez, « cela n'arrivera pas », souvent, on imagine le pire. Qu'est-ce qui va m'arriver hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui disent, eh bien, en ce moment, au niveau des finances, il y a une crise, ça va être la récession. Cela ne t'arrivera pas. Hein? La parole de Dieu, « Je n'ai jamais vu le juste allant mendiant sans pain. » Hein? Ne vivons pas toujours des scénarios catastrophiques. Ne soyons pas eh bien, toujours dans le négatif, mais projetons-nous eh bien, dans le positif. Les choses les pires n'arriveront pas, ce n'aura pas lieu. Il y a là, eh bien, lorsqu'il y a des ennemis qui t'en veulent, lorsque tu as des personnes qui sont contre toi et qui conspirent contre toi, eh bien, tu verras qu'ils ne peuvent rien faire contre toi si tu as la conviction intérieure que ce que tu fais plaît à Dieu. Ils ne peuvent pas t'attaquer, hein, toute arme forgée contre toi retournera. Donc, tu t'aperçois bien, eh bien qu'il y a ce désir, mais bien souvent, nous allons dans le camp de l'ennemi parce que nous sommes agités, parce que nos cœurs s'emballent, parce que nous ne maîtrisons pas la situation. Et ne pas maîtriser une situation, eh bien, nous amène bien souvent à vivre des déboires. Mais lorsque tu regardes les choses et lorsque tu ne t'affoles pas, lorsque tu es là en train de regarder à ce que tu fais, c'est quelque chose de formidable. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous faites quelque chose dans la vie, que vous prenez de bonnes décisions, il y a toujours des choses qui se passent et qui viennent contrarier vos décisions. Finalement, vous vous dites, je décide d'aller à l'école biblique le lundi. Vous apercevez qu'une semaine ou deux semaines après, il y aura un rendez-vous chez un médecin, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura toujours une tas de choses. On est toujours dévié des objectifs que nous sommes fixés. Et lorsque tu mets ton cœur à l'ouvrage, lorsque tu apprends quelque chose, que tu sois au niveau de l'audiovisuel, que tu sois dans l'étude biblique, lorsque tu mets ton cœur à l'ouvrage, tu mets un cœur avec un zèle, avec de l'enthousiasme, il y aura toujours quelqu'un ou une personne qui viendra te saboter, qui viendra ôter ta joie. On a l'impression, on se dit, mais pourquoi je fais quelque chose de bien? Et puis on va regarder en pensant que ce que tu fais est mal. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu as tendance à dire, finalement, à quoi ça sert? Tu rentres dans le découragement. Et si tu rentres dans le découragement, c'est l'ennemi qui gagne et ce n'est pas Dieu qui en a la victoire. Alors, au verset 9, dans le même chapitre 7 du livre d'Ésaïe, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Moi, j'aime parce que si vous ne restez pas ferme, dans votre foi, dans vos convictions, vous ne subsisterez pas. Je crois que Dieu n'est pas un pantin. Il nous a donné des jambes pour que nous puissions marcher sur nos jambes et pour que nous puissions tenir droit. Et il est important que nous ne tournions pas tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Cette conviction que Dieu t'a donnée, attache-toi à elle, sois ferme dans ta foi. Et cette foi en Dieu. Il y a trop de gens qui n'ont plus foi en Dieu, qui ne regardent qu'à eux-mêmes. Il y a trop de gens qui ne font plus confiance à Dieu. Mais Dieu nous amène toujours à mettre notre foi en pratique. La foi, ça se vit. La foi, ça s'exécute dans notre vie. Et moi, j'aime ces paroles, cette fermeté de te dire, tiens ferme. Si tu traverses une tempête, tiens ferme. Ne te jette pas à l'eau, ne te noie pas. Tiens ferme. Dans la tempête, dans la difficulté, tiens ferme et foi. Mets ta foi en pratique. Ce sont des exercices formidables. J'écoutais dernièrement, aux actualités télévisées, on simulait, un incendie et on faisait venir des marins, on faisait venir des personnes pour avoir les gestes qui sauvent. Vous voyez, ils sont passés par un test. Et parce que si cela devenait réalité, ils auraient les gestes qui sauvent. Je dirais que nous aussi, nous passons par des tests de la foi. La vie est un test et nous sommes, nous aussi testés par notre maître. Nous aussi, nous devons mettre en exécution ce que nous avons appris dans les Écritures. Nous aussi, nous devons mettre cette foi en action. Parce que quand tu as la foi, tu as la bonne humeur, tu as la puissance de Dieu avec toi, tu tiens ferme dans la difficulté, tu es pas là en train de baisser les bras, tu continues. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Il nous dit dans le psaume 42, verset 11, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Pourquoi vis-tu ces abattements ? L'apôtre Paul, lui, il a fait face à beaucoup d'opposition. Et vous savez ce qu'il dit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 16 ? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein, c'est là eh bien, la puissance de la parole. C'est là ce que Dieu nous apporte au quotidien dans un renouvellement chaque matin dans notre être intérieur. On a besoin de s'encourager. Le matin, est-ce que tu te parles ? Est-ce que tu laisses ton âme aller dans l'abattement ? Ou est-ce que tu commences à te dire, eh bien, voilà, maintenant ça va être une bonne journée, n'écoute pas telle personne, rejette cette pensée-là et continue ton travail, donne-toi ces objectifs. Ne te dis pas, je suis un bon à rien parce qu'un tel pense que je suis un bon à rien. Hein ? Mais bien au contraire, continue. Moi, j'aime ces paroles. La parole de Dieu, eh bien, elle nous restaure chaque matin. Elle nous travaille. Elle nous exhorte chaque matin. Et même si tu réussis pas en fin de compte au bout de cette journée, sache que toujours celui qui a la victoire, c'est le Seigneur. Hein? C'est quelque chose de formidable que la parole de Dieu. Sa parole, elle doit être dans ton cœur jour après jour. Mais si tu perds ton cœur, eh bien, si tu perds courage, finalement, tu ne vas pas aller dans l'horloge de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans le plan de Dieu, parce que tu vas eh bien, t'apitoyer sur toi-même, tu vas bien souvent vivre des temps de désolation, et tu diras au bout de compte, peut-être que c'est la faute de Dieu, tu te mettras même en colère, eh bien, quelquefois contre Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le verset 11 du prophète Ésaïe, on voit « L'Éternel parla de nouveau à Achas et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-lui soit des lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Moi, j'aime ces paroles. Qu'est-ce qu'il a été dit ? Le prophète, qu'est-ce qu'il dit au roi ? « Demande un signe. » Il y a des fois où on est découragé et on regarde à la situation. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu des signes ? Moi, j'étais préoccupé par certaines choses et je dis, Seigneur, donne-moi un signe. Et puis, le Seigneur, eh bien, il m'a inspiré ses paroles. Il m'a dit, prends courage. C'était un signe. Hein ? Regarde à moi. On est souvent découragé dans la vie, il y a des choses qui nous découragent, mais est-ce qu'on demande eh bien, la faveur de Dieu ? Moi j'aime, hein, parce que le prophète, il dit, hein, en ta faveur un signe. Est-ce que tu demandes à Dieu des signes en ta faveur ? Mais pas des signes, je dirais, comme beaucoup de personnes, Seigneur, donne-moi une parole que je trouverai dans la rue, ou donne-moi ceci, ou donne-moi ça. Non, un signe, quelque chose d'extraordinaire. Demandez et on vous donnera. Hein. Demande à Dieu quelque chose qui puisse eh bien, t'apporter un élément nouveau, qui te donne une direction. Donne en ma faveur, donne-moi un signe, hein, donne-moi de voir des choses. C'est pourquoi il est dit, demande en ta faveur ce signe, apprenez à recevoir quelque chose en votre faveur. Souvent, on regarde toutes les choses et on se dit, ça va pas, et ça va pas, et ça va. Et qu'est-ce qui va ? La faveur de Dieu, elle va dans ta vie. Parce que même là où tu as l'impression que rien ne va, il y a quelque chose qui va. Et quand tu regardes à ce qui va, eh bien souvent c'est là où tu mets le doigt de Dieu sur toi. Hein? Il y a des situations où tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi Seigneur ? Mais sache que dans cette situation que tu vis, eh bien, il y a un point bien précis où tu vois la faveur de Dieu. Regarde à la faveur, regarde à ce signe. Moi, j'aime voir le signe de Dieu. J'aime à m'attacher à quelque chose de bon. J'aime à m'attacher à ce qui fait eh bien, le pourquoi, le comment de ce que tu vis. S'attacher à la faveur. Nous sommes, c'est quelque chose de merveilleux que la grâce de Dieu. C'est merveilleux de savoir que nous sommes sous la faveur du Seigneur. Et c'est merveilleux parce que nous savons que Dieu est un Dieu étonnant. Nous savons qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et nous savons que nous sommes des personnages très importantes aux yeux de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de rois. Nous savons que Dieu a des ambitions pour nous. Nous savons que Dieu a des projets pour nous. Nous savons que Dieu nous amène à vivre des choses que le monde ne connaît pas. Et il nous révèle même les choses cachées. Et cette faveur de Dieu, est-ce que tu vas la mettre de côté ou est-ce que parce que les gens ne regardent pas la faveur de Dieu? Le monde ne regarde pas la faveur de Dieu. Ils regardent à ce qu'ils sont capables de faire, ils regardent à leurs connaissances, ils regardent à tout ce qui ne va pas, mais ils ne regardent pas la faveur. Et toi qui sais que tu as la faveur de Dieu, eh bien fais cet acte de foi. Demande, mais ne demande pas petit, demande beaucoup. On s'habitue toujours à demander petit. Vous savez, c'est de la fausse modestie. Hein, à Marseille, on connaît bien ça. Un petit apéritif dans un grand verre. Ça, c'est les Marseillais. Hein. Si tu leur apportes un petit apéritif, ils vont te regarder de travers, ils vont dire, c'est ça l'apéritif à ce prix-là. Hein, j'en aurai deux. Vous voyez, c'est là, non, demande des choses extravagantes, demande des choses originales, sors un petit peu des sentiers battus, ne rentre pas dans ce conformisme. Des fois, je regarde à des jeunes et je dis, mais sors de là, fais pas comme tes parents, tu t'appelles pas, tu n'es pas ton père. Quand je te parle à toi, je ne parle pas à ton père. Je parle à quelqu'un qui a 20 ans. Alors, montre-moi que tu as 20 ans. Ne me parle pas comme si tu en avais 50. Hein, quand tu en auras 50, je te demanderai de me parler eh bien, comme si tu avais 20 ans. Encore. Et oui. Hein, vous voyez, c'est là. L'apôtre Paul dit dans le deuxième livre aux Corinthiens, c'est quelque chose de fort. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Moi j'aime ça. Hein. J'aime ces paroles qui nous montrent qu'il ne faut pas perdre courage. Et pourquoi nous ne perdons pas courage? Je regardais dans cette même histoire, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, et puis j'ai vu au verset 14 quelque chose qui m'a réjoui. Ça m'a fait du bien. Et vous voyez, Ésaïe, il ne connaissait pas Jésus. Hein. C'était bien avant. Hein. Eh bien, au verset 14, il est dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Et quel était le signe? « Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » J'ai été émerveillé. J'ai dit, « Tu vois, eh bien, il y a Emmanuel. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu est avec toi. » J'ai dit, tu vois, eh bien, dans cette bataille, dans ces turbulences de la vie, dans ces moments eh bien, où tu es découragé, sache que Dieu est avec toi. Il y a l'Emmanuel, hein, il y a le Dieu qui est avec toi. Et ça m'a réjoui, parce que je me suis dit, eh bien, tu vois, mais si Dieu est avec moi, eh bien, c'est que Dieu veut que je fasse ce qu'il veut que je fasse. Ça te montre que même si des fois il y a des gens qui s'opposent à toi, eh bien, ça te montre que tu es quand même dans le bon chemin, dans la bonne ligne, parce que Dieu est avec toi. Et il te dit, continue, prends courage. C'est là quelque chose qui réconforte, qui nous donne eh bien, de garder notre cœur. Et moi, je voudrais eh bien, que dans toutes ces situations que vous vivez peut-être, regardez à Jésus. Dieu est avec toi. Prends conscience que dans ta désolation, dans ta tristesse, dans ton abattement, Dieu est avec toi. Il est auprès de toi. Il t'écoute. Regarde. Hein, et si tu regardes, c'est pas dire il est là à côté de moi pour simplement eh bien, voir mes pleurs. Il est là pour me faire « Oui, tu as raison de pleurer. Continue à pleurer. Je suis avec toi. » Non, il n'est pas là pour me dire ça. Il est là pour me dire « Non, ne t'abats pas, hein, continue, bats-toi, vas-y, je suis avec toi. » Il n'est pas là pour te prendre dans les bras. Ne fais plus rien. Maintenant, repose-toi dans mes bras. Non, il te dit, va. Hein, va. Tu as la maladie. Marche dessus, la maladie. Continue. Espère en la guérison. Il te dit, dans tes projets, ne sois pas là en train de regarder aux montagnes qui sont devant toi. Jésus a déplacé les montagnes pour que tu réussisses dans tes projets. Nous avons un Dieu formidable, un Dieu merveilleux. Nous connaissons le pourquoi il nous a choisis. Il nous a choisis parce qu'il veut faire de nous des lumières, il veut nous montrer en exemple. Ne regarde pas toujours à tes défauts, mais regarde aux qualités que Dieu t'a accordées, aux dons que Dieu t'a donnés. Et mets-les en pratique, donne-les aux autres, ne les garde pas pour toi. Et tu verras, eh bien, tu verras que le Seigneur canalise-toi. Le meilleur remède que tu puisses vivre pour tenir ferme, c'est de ne pas regarder ni à droite ni à gauche, mais de regarder toujours à Jésus. Si tu regardes toujours à Dieu, tu verras que ton cœur sera de plus en plus fervent pour lui et tu verras que rien ne peut aller contre toi. Rien. Parce que c'est Dieu qui prend soin de toi. Amen. On va s'incliner dans la prière. Béni soit le nom de Jésus. Seigneur, merci de mettre dans le cœur de tes enfants eh bien, cette joie pour la maison de Dieu, cette joie pour l'amour fraternel, de mettre cette bonne humeur dans la vie de chacun. Tu vois combien, Seigneur, nos vies et ce que nous vivons nous amènent souvent à être découragés et à nous enlever notre gaieté, notre joie de vivre, cette bonne humeur. Tu vois, Seigneur, combien des fois nous sommes abattus au-dedans de nous. Que, Seigneur, nous puissions tenir ferme, que nous puissions, je te demande par l'Esprit Saint, de venir en aide à chacun, afin qu'il soit debout et qu'il tienne ferme, et qu'il te mette cette foi en action. Seigneur, tu es avec chacun de nous. Tu connais chacune de nos difficultés. Rien n'est impossible à toi. Tu es capable d'ouvrir, eh bien, n'importe quelle porte. Tu es capable, Seigneur, de faire ce que tu veux. Seigneur, nous voulons simplement t'apporter nos vies, te demandant eh bien, que tu en prennes soin. Donne-nous de continuer. Donne-nous de ne pas regarder aux adversités, mais de continuer et de courir vers le but. Donne-nous, Seigneur, eh bien, d'avoir toujours en nous ce zèle de l'Évangile, dans le nom de Jésus. Amen.